Tenez, Lily, êtes-vous bien avec nous cette fois-ci?
Oui, c'est parfait, j'entends très bien.
Deo Gracias, vous m'entendez bien, et moi aussi, mais c'est un bonheur de vous entendre, surtout que votre livre est un vrai bonheur, lui aussi. Alors,
merci
et
beaucoup,
ce bonheur, j'aimerais commencer par un peu l'esquisser, vous faire un petit peu le fond d'or. Le fond d'or de ce livre, qui est une promenade en fait dans le jardin des délices de notre Seigneur, qui est son Église et que sont les saints. Et
exactement.
Vous le dites assez bien. C'est pour ça que je prends un peu cette image-là de fond d'or, parce que c'est du Frangelico aussi. Vous nous dites, si j'avais été peintre, j'aurais peint. Les visages ou les anecdotes que ce livre nous donne à regarder posent les grandes interrogations de la vie humaine. Qui est le Christ pour nous? Comment éclaire-t-il l'énigme de l'existence humaine? Qu'est-ce que la joie chrétienne? À travers les diverses rencontres que nous ferons ici de saints, d'enfants, de mères de famille, de prêtres ou de grands-parents d'aujourd'hui, se dessinera ce qui est au fond la thèse de ce livre, la résurrection va se lever. Alors, c'est baigné dans cette lumière d'éternité, dans cette résurrection, que vous nous présentez ces figures de saints, Bénédicte, hein, et de toutes sortes, de Carlos Acuti, d'Antoine Chevrier. Et, alors, est-ce parce que vous-même, vous faites votre cette parole magnifique de Chiara Luce, est-ce que c'est parce que vous-même faites votre cette parole de Chiara Luce que je vais vous citer? Si nous sommes toujours prêts à tout, nous verrons que Dieu passe tout près de nous. Est-ce que vous êtes encore prêts à tout? Est-ce que finalement la sainteté est la grande aventure de votre vie? C'est l'impression que donne ce livre.
Ah, c'est une belle impression. Oui, je crois que la sainteté est vraiment la grande aventure de ma vie. Et au fond, j'ai voulu écrire ce livre pour parler de la beauté du baptême. Parce qu'il me semblait que, comme selon le pape Jean-Paul II, qui dit que quand on demande à un catéchumène « veux-tu être baptisé ?», au fond, cela signifie lui demander « veux-tu devenir un saint ?». Et que nous tous qui sommes baptisés, au fond, notre chemin qui nous attire, c'est la sainteté comme suite de Jésus. Et c'est pour ça que j'ai voulu indiquer par ce livre combien le trésor du baptême était exceptionnel et se déployait dans nos vies à travers de mille manières.
Alors je suis allé bien vite hein, dans ce livre, mais je vous ai même pas laissé vous présenter. Dites un peu à nos auditeurs, dans quel milieu vous évoluez, quel est votre état de vie.
Oui, alors je m'appelle Bénédicte, je suis mariée depuis 15 ans, j'ai 36 ans, j'ai 4 enfants. Je pense qu'une des grandes aventures de ma vie, ça a été évidemment de me marier avec Benoît et ensuite ensemble de faire partie d'un groupe d'adoration et de mission qui s'appelle le groupe Abba, où nous avons fait l'expérience d'être vraiment appelés par l'Église au service de la mission. Et je pense que ça a été une expérience extrêmement forte de notre vie de couple, une expérience d'adoration, de vraiment rencontrer le Christ dans l'Eucharistie et dans sa miséricorde, et ensuite d'être tellement brûlés par son amour que la soif de le donner au monde nous dévorait. Et donc, quand on était jeunes mariés, on passait nos week-ends à faire des missions dans les écoles, dans les paroisses, un peu à droite à gauche, pour annoncer le Christ ressuscité. Et puis, c'est dans ce cadre-là qu'un des évêques auxiliaires de Paris, Mgr Jérôme Beau, a remarqué la petite jeune femme que j'étais de 23 ans à l'époque et s'est dit « cette femme peut peut-être servir l'Église un peu plus profondément encore ». Et il m'a appelée à faire de la théologie, donc j'ai quitté mon métier, je travaille dans la haute joaillerie, et j'ai quitté mon métier pour étudier pendant 8 ans la théologie, un peu dans la foi, parce que je ne savais pas très bien quel chemin le Seigneur dessinait pour moi. C'était un chemin un peu de pauvreté, parce que les études, c'est austère. Je travaillais à la faculté Notre-Dame, donc j'étais formée en même temps que les futurs prêtres de Paris. Et c'est comme ça que j'ai peut-être avancé dans la connaissance du visage de Jésus, en tout cas dans son amour au quotidien fidèle. Et ensuite, maintenant, je suis professeure de théologie au Collège des Bernardins et j'écris la collection Graines de Saint, qui est une collection pour les enfants assez connue par la beauté de ses chants composée par Anne-Sophie Ram, qui raconte la vie des saints pour vraiment donner aux familles le goût de suivre le Christ. Voilà, donc ça, c'est un peu ma vie et une vie simple de famille dans laquelle j'ai appris, je pense, à essayer de discerner le visage de Jésus.
Alors, pour revenir maintenant à l'ouvrage, et en effet, cet ouvrage se ressent de votre formation, On sent quelquefois, on se dirait que ce sont des petites homélies, en somme, des petites homélies pleines de toniques, pleines de levain, comme ça, un peu pour saler le sel, pour remettre un peu dans la montée les chrétiens qui auraient tendance à fatiguer ou à se dire, ben, pas pour moi, parce que ce livre-là, en somme, il commence par, je sais plus, excusez-moi si c'est quel membre de la famille, mais en tout cas, il se dit, le seul qui est saint, là, et qui a des chances de le devenir, c'est le petit poupon, le petit nourrisson qui est autour de la table, quoi.
Exactement, exactement. C'est une phrase de mon beau-père lancée au milieu d'un repas et qui m'a frappée sur un espèce d'état d'esprit de, pas de découragement, parce que mon beau-père est très joyeux, mais d'avoir baissé les bras et de se dire au fond, les saints, c'est les saints des vitraux perchés là-haut avec leur belle auréole, mais j'ai tellement fait l'expérience de ma médiocrité, où ma vie est tellement ordinaire, où j'ai fait tellement de péchés, que je ne crois plus du tout que cette aventure puisse être pour moi. Et cette phrase anodine au cours d'un repas m'avait en fait assez frappée sur une disposition du cœur de beaucoup qui se disent au fond, et puis encore aujourd'hui avec l'actualité assez douloureuse, au fond finalement cette aventure n'est pas possible. Et je me dis qu'en fait si on croit en l'amour de Jésus, en sa miséricorde, en la présence du Saint-Esprit, en les sacrements de l'Église, alors cette aventure est toujours possible, elle est toujours à notre portée, quelles que soient nos chutes et nos douleurs.
C'est ce que ça a éveillé chez moi, cette parole d'un père chartreux qui reste encore gravée en lettres d'or dans ma conscience. Il disait, si vous croyez à l'amour infini de Dieu pour vous, vous serez un saint. Si vous croyez fortement à l'amour infini de Dieu pour vous, vous serez un grand saint. Et
Oui,
ça.
c'est certainement ça, ce regard sur Dieu et qui quitte un regard sur soi. Parce qu'évidemment, si on regarde nos propres forces, on ne sera jamais des saints. Et Jésus le dit lui-même, pour les hommes, c'est impossible. Le salut pour nous est impossible. Et je trouve que l'actualité nous le montre bien. En fait, c'est impossible. C'est possible seulement pour Dieu. Et celui qui est saint, c'est Dieu. Et finalement, c'est sur lui qu'on parie quand on veut devenir des saints. C'est vraiment sur lui qu'on parie.
Mais ça, vous le savez, Bénédicte, parce que voilà, vous avez des heures de vol au niveau de l'adoration, vous commencez à avoir les genoux qui sont tannés. Voilà, vous rendez compte de cet appauvrissement et en même temps cet enrichissement qu'il y a dans les temps de présence, dans les temps d'adoration, d'être seul avec le Saint en face de lui. C'est.
Certainement. Et puis le sacrement de mariage, je pense, c'est aussi un lieu où on fait l'expérience de ses limites de manière assez forte.
Ah, c'est
Parce
une
qu'on
école
peut
de
mentir,
mortification, oui.
voilà, on peut
Continuelle,
mentir à
oui.
toute la, à tout, à tout le monde entier, au boulot, par avoir l'air d'un grand personnage, mais en famille, on ne sait pas cacher ses limites. Et son épouse ou ses enfants savent bien nous les rappeler. Et au fond, c'est une belle école de se mettre à genoux et de se dire, bah bien sûr, je suis remplie de limites, de caractère, de d'histoire, de défauts, de péchés, mais je crois encore en l'amour de Dieu pour moi.
Et ça transpire évidemment. Et moi, je crois beaucoup en tout cas à cette grande encre de prière et de salut que vous. Il y a une belle prière à Notre-Dame que vous faites là-dedans, ce livre. Il y a, oui, Notre-Dame, dites-vous, priez. Priez car sans Dieu, il est impossible que nous devenions des saints. Et pourtant, rien ne serait plus triste que de ne pas ressembler à Jésus, que sa vie ne puisse pas être lue à travers la nôtre. Oui, Mère, au moment de notre mort, s'il vous plaît, rattrapez tout. Et faites de cette heure une heure sainte, où dans un souffle, comme le larron, nous pourrons, avec celui qui nous a tant aimés, donner par amour notre vie, faite de petits riens, où partout resplendit comme seul trésor la sainte miséricorde. Et je me permets de lire des passages parce que c'est quand même. Vous étiez dans la haute joaillerie, j'apprends, ben ça m'étonne pas du tout parce que c'est quand même. C'est bien ouvragé, c'est bien ciselé, hein, ça. On sent que vous êtes. Mais oui. Il y a de
Il me
ça.
semble que peut-être un des grands thèmes qui traverse cet ouvrage et qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui de la mort et de la résurrection. On l'entendait dans l'extrait que vous venez de nous citer. Et je pense que la mort est l'expérience par excellence qui nous fait soit chuter en criant au scandale à juste titre, puisque la mort est un scandale, ou soit au contraire nous déchirer le cœur et nous retourner vers Dieu. Et il me semble que c'est ça que j'ai certainement voulu travailler, peut-être une thèse un peu plus originale de ce livre, c'est voir un peu ces deux facettes de la mort comme un scandale terrible, selon le mot de la poète Marie-Noël que j'aime tant. J'ai eu beau savoir, connaître ou comprendre tout le bien qu'on m'a dit d'elle, donc de la mort. La mort m'a toujours trouvée hurlante à la face du ciel, écrit Marie-Noël. Et je trouve que y a cette facette qu'on doit garder quand on est chrétien. J'aime pas trop, moi, par exemple, le terme d'enciellement quand on va à un enterrement, parce que je me dis, parfois, on surfe sur cette réalité douloureuse qui est l'arrachement
du corps. J'ai découvert ce mot-là, c'est vous. D'accord, c'est vous qui me l'apprenez.
De ce qu'on aime. Voilà, oui, parfois j'entends ça, j'entends bien la beauté
milieu...
de ce que ça veut dire.
D'accord, ah bon, j'ai jamais...
Mais il me semble qu'on doit garder cette facette de dire, ben non, la mort, c'est une offense au Dieu de la vie, c'est vraiment l'offense au Dieu de la vie. C'est vraiment l'œuvre de Satan qui brise l'œuvre du Créateur. Il y a vraiment cette facette-là. Et puis, la mort chrétienne, c'est aussi une rencontre avec Jésus, puisque Jésus est mort pour nous, et que maintenant, y compris dans la mort, on peut voir son visage et sa main peut nous saisir. Du coup, je pense que ça traverse pas mal mon livre, cette question de la mort comme douleur, comme offense au Dieu de la vie, mais comme, depuis la mort de Jésus, transfigurée de l'intérieur, et maintenant, je vois le visage de Jésus au cœur de cette mort même, et ça m'ouvre à l'espérance de la résurrection. Certainement, il y a une chose qui marque ce livre, c'est que l'espérance de la résurrection transforme vraiment toutes les réalités du quotidien.
L'espérance, oui, dans le langage, et dans le langage, c'est la prière, le langage de l'espérance. Et il y a la mort, et il y a aussi le temps de confinement qui traîne, qui gravite autour de ce livre aussi.
Peut-être, oui. Alors, comme c'est un livre bien incarné dans notre temps,
oui.
Qui raconte plein d'anecdotes de personnes rencontrées, et du coup, en effet, ces thèmes-là... Ce qui m'a frappée, c'est que beaucoup, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient plus tellement fort en la résurrection de la chair. Souvent, ils croient que leur grand-mère ou leur mari ou leurs enfants qui leur ont été arrachés par la mort ont leur âme immortelle. Ça, souvent, ils y croient. Et au fond, ils ne croient plus, on ne leur a plus dit qu'ils reverraient le visage cher qu'ils ont quitté et qu'ils retrouveraient cette démarche, ce visage, ce corps tant aimé. Et donc ça fait partie des choses que j'ai travaillées dans ce livre, qui pour le coup, j'ai fait ma licence canonique de théologie sur cette question de la résurrection de la chair. Donc c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Et au fond, cela affleure que finalement, quand on s'aime les uns les autres sur cette terre, quand on fait l'expérience de tomber amoureux, tout un coup, c'est comme l'expérience du ciel qui s'ouvre et une sorte de descente de la béatitude éternelle, un peu comme vécue déjà au milieu de nous, et que les personnes qui nous seront arrachées par la mort, oui, vraiment, nous les retrouverons. Pas seulement leur âme, mais aussi leur corps.
Il y avait ce passage touchant aussi, je ne savais pas, mais j'ai vu que Michel Houellebecq, justement, fondait en larmes en discutant avec Gérard Depardieu, justement, pour cette question-là. Peut-être qu'il sent de façon plus profonde, plus fine, mais il disait, mais ma grand-mère, je veux la prendre dans mes bras, je veux la...
Exactement, alors ça c'est dans le film Thalasso.
Ah d'accord,
c'est vraiment le grand passage de ce film, oui. Qui est complètement bouleversant.
D'accord.
Vous savez, Thalasso, c'est un espèce de dialogue entre Michel Houellebecq et Gérard Depardieu, et ils parlent de plein de sujets, et à ce moment-là, ils sont donc en peignoir, à boire un grand cru de Bourgogne, je crois, et ils discutent tous les deux, et il y a Houellebecq qui dit d'un ton assez rêveur, mais tu sais, moi j'y crois à la résurrection de la chair, finalement, les enterrements juifs, les enterrements musulmans, c'est triste, les seuls enterrements auxquels j'aime aller, enfin il dit pas j'aime aller, mais les seuls enterrements où je trouve que vraiment c'est beau, c'est les enterrements chrétiens, parce qu'on sent qu'ils y croient. Alors Gérard Depardieu comprend pas trop, il dit oui, toi tu crois à la résurrection, moi aussi je crois, oui je crois que ma grand-mère, elle est là, elle existe en moi, et là il y a Houellebecq fond en larmes et dit, mais moi je te dis pas ça, je te dis quelque chose de plus, je la reverrai, moi, vraiment, je la reverrai. Et donc là, ils ont dû couper la scène parce que je pense que l'émotion de Michel Houellebecq était trop grande. Et ils sont passés à une autre scène où ils approfondissent cette question une fois que Michel Houellebecq s'est ressaisi. Et au fond, il me semble que cette question, elle traverse aussi toute la littérature. On trouve ça dans Dostoïevski, les frères Karamazov, à la fin, où on voit une sorte de scène extraordinaire où le jeune Alyosha, donc le héros du livre, est devant la tombe d'un petit garçon et il dit à tout le monde d'un ton exceptionnel, nous nous reverrons, je vous promets, nous nous reverrons. Voilà, je pense que ça c'est un message vraiment à dire à notre temps troublé par la peur de la mort, que nous nous reverrons et que le corps de Jésus ressuscité est la preuve que nous retrouverons nos corps et surtout le corps de ceux que nous aimons.
Mais ça, c'est un parfum qu'on peut trouver. C'est un parfum qu'on peut trouver quand la liturgie est célébrée de façon céleste. On sent cette incarnation très palpable de tout. On sent on voit les visages qui rayonnent. Quand on est aligné, disons, à cette lumière d'en haut, vous voyez, il y a quelque chose de palpable là. La lumière de la gloire de la résurrection est palpable. Je sais qu'il y a ces phénomènes.
Le message de l'évangile est vraiment pour la chair. C'est pas seulement un message pour l'âme.
Voilà, et la
vraiment
chair,
investi pour la chair.
même pour la création, la chair dans ce sens-là, quoi. Ça veut dire quand les
Exactement.
pierres sont travaillées d'une manière, quand les voiles, les vêtements sont travaillés d'une manière, ça laisse transparaître quelque chose de cette gloire. Et alors, Bénédicte, j'ai envie de vous dire, parce que moi aussi, je suis bien résolu, je sais que avec ma femme aussi, on s'est dit, on va aller vers la perfection de la sainteté, de la charité, donc la perfection de la charité. Alors vous, qu'est-ce que c'est votre petit... comment comptez-vous vous y prendre, en somme? C'est quoi votre petit secret, votre petite astuce? Moi, j'ai les miennes. C'est
Ah,
quoi?
vous avez des astuces pour devenir saint.
Oui.
Moi, j'ai l'impression que ma seule astuce, c'est de crier vers Dieu et d'espérer son salut.
Ah, bah,
Et
crier
il me
vers Dieu,
semble que
espérer. D'accord.
toutes mes astuces ont été déjouées
Ah, même ça?
parce que j'ai toujours été rattrapée par mes limites. Mais il me semble que ce qui est toujours possible, c'est d'espérer follement en Dieu. Et ça, en cela, je n'ai pas cessé d'espérer.
Oui, vous avez gardé cette verdeur-là. Moi, je vais vous dire, cette verdeur-là, je la monnaie, comme demande le pape François, il disait, faites toujours des prières très brèves, très courtes, tout au long de la journée, vous allez voir, pour garder cette tension, cette verdeur-là. Et je sais que bien des maîtres et des anciens, surtout dans le désert, disaient, voilà, si tu veux t'avancer vers Dieu, avance-toi sur cette canne-là. Pour pas, vous voyez, pour pas trop qu'il y ait de pertes dans la vie de tous les jours où la fine grisaille, comme dit Bernanos, nous facilement nous recouvre. Et gardez cette verdeur-là qu'il nous a conseillé, bon pape François, justement, faites des prières, c'est Jésus sauve-nous, Jésus à l'aide, etc. Mais ce langage de
Oui.
l'espérance, au fond, c'est ce que vous dites, on dit là, on n'est pas loin, puisque c'est
Après,
quand
il y a
même... Hein.
le cardinal Van Tuan aussi qui donne
Oui,
ce
merci pour
cardinal
ça.
émouvant,
Mais
qui
oui.
donne des belles petites
Ah
techniques de
oui.
prière quand il est en prison et qui se décourage.
Exactement.
Et en effet, c'est des petits cris vers le Seigneur.
Voilà,
Et puis
répétez mille
aussi
fois
cette
le jour.
expérience de Madeleine
Oui.
d'Elbrel qui fait vraiment fortement cette expérience de la présence de Jésus,
Oui.
non pas seulement dans les cloîtres, mais dans les rames du métro, à l'arrêt de bus, en allant cueillir la salade au fond du jardin. Et elle dit, voilà, c'est des moments où on peut faire des face-à-face avec Dieu. C'est pas seulement l'oraison d'une carmélite,
Mais oui.
mais c'est aussi la prière d'une mère de famille devant le lait qui bout,
C'est
ou
les moments
bien en
préparés par
faisant des
Dieu de
lacets.
toute éternité, disait-elle, comme ça, c'est le
Exactement.
moment qu'il a préparé pour nous pour être. Ça vient de lui, donc c'est aussi lui, quelque part, qui nous attend par là. Ma chère Bénédicte, c'était une joie cet entretien, c'est d'une verdeur et en même temps d'une verdeur vraiment d'émeraude, hein, toute scintillante et pleine de vie et de
Merci
vitalité,
beaucoup.
cet ouvrage. J'invite réellement nos auditeurs à se le procurer, c'est aux éditions de l'Emmanuel, ça s'appelle Dieu passe tout près de nous, les saintes aventures de la vie ordinaire, c'est fort bien écrit. Ben, je me reste plus qu'à vraiment vous dire de pas lâcher l'affaire, hein, Bénédicte, hein, comme
Ah,
on lâche pas
merci.
l'affaire aussi par ici, hein, vous savez,
Ah, merci
on y croit.
infiniment, ça m'encourage. Merci de tout cœur.
C'est avec grande joie que nous vous retrouverons sur l'antenne de Radio Maria, Bénédicte.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.